Contre toute attente, la Russie s'abstient de rétorquer à des sanctions américaines. Un accord de cessez-le-feu fébrile tient bon en Syrie. Et la France s'apprête à fêter la Saint-Sylvestre sous haute surveillance. Et en Australie, 19 personnes hospitalisées suite à une bousculade lors d'un concert. Le président Vladimir Poutine a créé la surprise hier en décidant de n'expulser personne, ne répondant ainsi pas à l'expulsion par Washington de 35 diplomates russes. Ce, contrairement à ce que proposait son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Vladimir Poutine tiendrait-il une position contraire à celle de son ministre des Affaires étrangères? Bien, Cyril Brett, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste de la Russie, déclare que la contradiction apparente entre Lavrov et Poutine n'en est pas vraiment une. Il s'agit plutôt d'une technique classique du Kremlin.
Le trio que font Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov et Medvedev est assez bien rodé. Ils se répartissent généralement, quand il s'agit de faire face aux sanctions, ils se répartissent le rôle du hardliner et du conciliant. Bon, je pense que c'est la bonne vieille technique de temporisation qui va être utilisée. Il ne faut pas oublier que d'un point de vue russe, là on est dans un interrègne. Ils ne croient pas au maintien de la ligne dure adoptée par Obama. Ils s'attendent à ce qu'il y ait un répit en fait dans la stratégie de tension avec les Américains, et donc ils attendent tout simplement la date de prise de fonction de Donald Trump. Hein. C'est une mesure d'attente en fait.
Et Donald Trump, précisément le président élu des États-Unis, a salué dans un tweet l'intelligence de Vladimir Poutine, ce moins de 24 heures après une longue série de sanctions prises contre Moscou par le président sortant Barack Obama. Et des affrontements et des raids aériens à l'ouest de la Syrie menacent de faire dérailler un cessez-le-feu signé hier sous le patronage de la Russie et de la Turquie. Cette trêve, qui a été annoncée par le président Vladimir Poutine en personne, devait entrer en vigueur à minuit pile. On place beaucoup d'espoir dans cette trêve qui pourrait marquer le début des pourparlers de paix. Et il faut signaler que les autres efforts internationaux ont échoué. Et l'État islamique est un des groupes exclus de cet accord de cessez-le-feu qui s'étend sur toute l'étendue du territoire syrien. Et les Nations Unies ont salué cet accord et un vote pour l'entériner devrait d'ailleurs passer au Conseil de sécurité de l'ONU dès ce samedi. Mais le conseiller spécial des Nations Unies pour la Syrie tempère quant à lui les ardeurs des diplomates. Pour Jan Egeland, il faut attendre plusieurs jours pour voir les effets de cette trêve se concrétiser sur le terrain.
The reports I have from the field is that there is a decrease, a marked decrease in fighting, in bombing, in violence compared to yesterday, but certainly there's been a number of violations. And that is probably to be expected because there are so many different groups, so many parties, so many militias, so many entities on each side that needs to understand and adhere to a ceasefire.
Et en France, la taxe Google ne verra pas le jour. Avant-hier, le Conseil constitutionnel a censuré cette partie du projet de loi des finances 2017. L'amendement avait été introduit par des députés socialistes proches d'Arnaud Montebourg sans susciter l'enthousiasme du gouvernement. Et ce texte visait à renforcer la taxation des bénéfices détournés par les multinationales sur leur activité en France. Cette taxe devait obliger Google, Facebook, Airbnb et les autres champions de l'optimisation fiscale à payer plus d'impôts. L'auteur de l'amendement, le député PS Yann Galut, ne comprend pas la décision du Conseil d'État et il promet d'ailleurs de réécrire son texte.
Le Conseil constitutionnel ne sanctionne pas mon amendement sur le fond, mais sur la forme. Il nous reproche de laisser trop de pouvoir à l'administration fiscale. Une fois de plus, le Conseil constitutionnel prend une décision qui me paraît plus politique et non justifiée, dans la mesure où, en agissant ainsi, eh bien, le Conseil constitutionnel retarde la lutte contre l'optimisation fiscale. Et une fois de plus, ce sont les entreprises françaises qui vont être victimes de cette décision, car elles payent 30% d'impôts à l'État, alors que ces multinationales ne payent sur notre territoire que 3% d'impôts.
Et toujours en France, des milliers de policiers et des militaires seront déployés lors des célébrations du réveillon de fin d'année. Les autorités déclarent avoir pris toutes les précautions pour que citoyens, tout comme des touristes, puissent célébrer la Saint-Sylvestre en toute sécurité. Description de cette Saint-Sylvestre sous haute surveillance avec Pierre-Olivier pour RFI.
Cette année encore, en plus des conduites en état d'ivresse, des bagarres et des voitures brûlées, il faudra prendre en compte la menace terroriste. Toutes les unités sont sur le qui-vive. Bruno Leroux, ministre de l'Intérieur.
Pour prendre un exemple, le fait que nous soyons en vacances scolaires a permis de réorienter les effectifs qui étaient mobilisés sur les écoles, sur les gares, sur les aéroports. Et c'est une occasion de dire qu'aujourd'hui, la sécurité de nos concitoyens, tout comme des touristes, est parfaitement assurée.
Une protection active mais aussi passive pour encadrer les grands rassemblements comme sur les Champs-Élysées où 600 000 personnes sont attendues. Une avenue cernée par 3 km de barrières et partout en France, des plots en béton près des grandes places pour empêcher l'accès à d'éventuels véhicules. Concernant l'état de fatigue des militaires et des policiers, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se veut rassurant.
Je les trouve particulièrement en forme parce qu'ils sont conscients de leur devoir et ça les rend, je trouve, très toniques à partir du moment où, en particulier, les Français les respectent dans leur mission.
Des Françaises et des touristes qui sont aussi appelés à être particulièrement vigilants.
Et des préparatifs de Nouvel An en Australie, tout se met en place aussi, et ce, à travers toutes les grandes villes du pays. On signale que le centre de Melbourne va accueillir ce soir près d'un demi-million de personnes. Et les autorités de Tasmanie, elles, de leur côté, entendent lutter ce soir contre l'abus de la drogue et des comportements antisociaux. La course annuelle de cheval de Perth, la Perth Cup, se courra quant à elle à Ascot Race, alors que 50 000 fans de cirque, de cricket, aussi connus sous le nom de Big Bashers League, vont se réunir à Adelaide Oval avant d'envahir les artères de la ville. Et Sydney s'apprête, elle aussi, à recevoir plus d'un million de réveillonneurs. Et le feu d'artifice de Sydney sera d'ailleurs dédié ce soir aux stars qui nous ont quittés en 2016, dont David Bowie, Gene Wilder et Prince. Les ambulanciers sont aussi préparés à secourir les réveillonneurs, mais Joel Bradley de Ambulance New South Wales appelle les gens à faire preuve de prudence quand ils font la fête.
It's certainly the time to party, so overindulgence contributes to our workload significantly, and certainly our message this year is to make sure that everybody out there, yeah, have a good time on New Year's Eve, but prepare really well. Drink lots of water, make sure you look after your mates and your mates look after you, and plan a way home most importantly.
Et au moins 19 personnes ont été hospitalisées après une bousculade lors d'un festival dans la ville de Lorne au Victoria. C'était hier soir. Selon un post sur la page Facebook des organisateurs, la bousculade a commencé juste après la performance du groupe DMA qui jouait dans la grande tente du festival. Paul Holman, commandant des services de secours de Victoria, signale que l'incident aurait pu être beaucoup plus grave.
We've seen these events overseas and they've had tragic outcomes, and we're very fortunate we've had no deaths as a result of this. Although we've had 20 serious injuries and a lot of people injured, we've had no deaths and we're really grateful for that.
Et de là, on va sur le continent africain où le président Idriss Déby du Tchad a réuni hier ses ministres et dirigeants du pays ainsi que la presse pour leur faire part d'une situation économique pas très flatteuse à l'aube de l'année nouvelle. Détail avec Sébastien Lemaitre pour RFI.
Idriss Déby a décrit une situation économique critique. Il a cité notamment la chute du prix du pétrole, mais aussi la difficulté pour le Tchad à exporter son bétail vers le Nigeria, la Libye et la Centrafrique à cause notamment de l'insécurité. Des pertes de ressources auxquelles s'ajoutent, selon le président, des hausses de salaires successives accordées dans la fonction publique. Selon Idriss Déby, l'économie ne peut plus supporter les deux phénomènes en même temps. À cela s'ajoute une grève des fonctionnaires depuis 3 mois. Pour le président tchadien, les syndicats qui ont lancé le mouvement ne se rendent pas compte du contexte économique actuelle. Face à la situation, le chef de l'État a donc annoncé des mesures pour le moins radicales. Des baisses de salaire d'abord. Il a visé notamment des primes accordées par l'État, primes qu'il décrit comme temporaires, pas éternelles, tout comme la manne pétrolière. Il a parlé également d'un contrôle des prix par le gouvernement. Enfin, il a déclaré vouloir interdire que les entreprises étrangères installées au Tchad rapatrient 100% de leurs bénéfices dans leur pays d'origine. Il souhaite les obliger à investir en partie sur place. Son allocution s'est également transformée armée en charge contre les syndicats. Il a accusé leurs dirigeants d'enrichissement personnel sur le dos des fonctionnaires, allant même jusqu'à les menacer de dissolution s'ils continuent à politiser leur action.
C'était Sébastien Lemaitre pour RFI qui décrivait la situation au Tchad. On reste en Afrique avec une très bonne nouvelle pour le Congo, du moins pour le moment. La majorité et l'opposition congolaise sont pratiquement arrivées à conclure un accord de sortie de crise provoquée en République démocratique du Congo par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Après 15 jours de discussions à Kinshasa, hier, l'épiscopat congolais a annoncé que les deux camps sont pratiquement arrivés à conclure un accord. Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a déclaré que les différents délégués viennent de s'accorder pratiquement sur tous les différends et tous les points de divergence. Et le compromis politique est là et la signature de l'accord devrait être conclue ce matin, donc ce samedi matin au Congo. Et le Portugais Antonio Guterres prend demain, 1er janvier, les rênes des Nations Unies. Et ce, au moment où l'organisation internationale a montré son impuissance en Syrie. Son nouveau secrétaire général ambitionne de lui donner un nouvel élan. Premier ancien chef de gouvernement à diriger l'ONU, il succède à 67 ans au Sud-Coréen Ban Ki-moon pour un mandat de 5 ans. Et un coup d'œil météo pour ce samedi. Perth 27 degrés, Adélaïde 25 degrés, Melbourne 24, Hobart 25, Canberra 33 degrés, Wollongong 27, Sydney 28 degrés, Newcastle 28, Brisbane 31, Cairns 32 et Darwin 31 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète ce samedi 72 centimes de dollars US et 68 centimes d'euros. Et à présent, un rappel des titres. Contre toute attente, la Russie s'abstient de rétorquer à des sanctions américaines. Un accord de cessez-le-feu fébrile tient bon en Syrie. Et la France s'apprête à fêter la Saint-Sylvestre sous haute surveillance. Et en Australie, 19 personnes hospitalisées suite à une bousculade lors d'un concert. Ceci termine notre journal. On fait une courte pause avant de passer au magazine des sports.